これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
Hey, venga.
Le gai savoir.
Une émission de Raphaël Antoven avec Paola Reymann.
À la technique, Cédric Châtelu.
À la réalisation, François Connac. Suite et fin ce dimanche d'une émission en deux temps sur le Tartuffe de Molière, le pauvre homme dont l'hypocrisie délivre le mode d'emploi de l'intégrisme. La semaine dernière, fidèle à la bizarrerie du texte, dont le personnage n'apparaît qu'au début de l'acte 3, nous avons parlé de lui sans le voir, mais il est temps désormais d'en faire la connaissance. Tartuffe est une crapule, c'est entendu, un cagot de bigot dont les macérations n'entament ni l'appétit ni la lubricité. Mais il n'y a pas de tyran sans esclave, et l'esclave c'est Orgon, qui n'a Dieu que pour lui, et dont l'obsession garantit à l'escroc le succès de son entreprise. Si Tartuffe avait été écrit à l'ère du mariage pour tous, qui sait jusqu'où Orgon serait allé trop loin dans la servitude volontaire ?
Bonjour Raphaël.
Bonjour Paola.
Comme vous l'avez dit dans votre chapeau, il est temps de faire connaissance avec Tartuffe et que le diable entre dans l'arène.
Allons-y.
Laurent, serrez la haie avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai. Partagez les deniers.
Que d'affectation et de forfanterie.
Que voulez-vous ?
Vous dire.
Oh, mon Dieu. Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir.
Comment ?
Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées.
Vous êtes donc bien tendre à la tentation et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas.
Mettez dans vos discours un peu de modestie ou je vais sur le champ vous quitter l'appart.
Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos et je n'ai seulement qu'à vous dire deux mots. Madame va venir dans cette salle basse et d'un mot d'entretien vous demande la grâce.
Hélas. Très volontiers.
Comme il sera douci. Ma foi, je suis toujours pour ce que j'en ai dit.
Viendra-t-elle bientôt ?
Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle en personne. Et je vous laisse ensemble.
Voilà, première rencontre, Tartuffe. Et pas avec n'importe qui, avec Dorine, la servante un peu trop forte en gueule, comme disait Madame Pernel.
C'est son pire ennemi, Dorine. C'est vraiment le pire ennemi de Tartuffe. C'est son adversaire le plus redoutable. Parce que non seulement elle démonte l'hypocrisie... Pardon, hein, c'est la différence entre Dorine, Damis, Cléante, etc. Il faut revoir les personnages de la pièce très rapidement. Damis, c'est le fils, il est fort en gueule lui aussi. Il veut dire les choses. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Il dit à son père, mais enfin papa, il a essayé de coucher avec ta femme, avec maman. Non, c'est sa belle-mère. Enfin, peu importe. Il essaie de lui dire, ça prend pas. Le frère explique au père ce qu'il en est. Et pareil, ça prend pas non plus. Dorine, non seulement elle démonte l'hypocrisie de Tartuffe, enfin elle dénonce l'hypocrisie de Tartuffe, mais surtout elle la démonte. C'est-à-dire qu'elle est celle qui ne cesse d'attaquer Tartuffe à la fois de façon frontale, comme elle attaque Orgon par le rire, et en même temps de repérer chez Tartuffe le contraire de ce qu'il vante. Donc, c'est vraiment une adversaire redoutable, parce que c'est Dorine, si hypocrite, qui étymologiquement signifie sous le masque, si l'hypocrite est démasqué littéralement, il ne l'est véritablement que par Dorine. On ne démasque pas l'hypocrite quand on se contente de dire qu'il est hypocrite. Mais quand on voit que derrière l'hypocrisie qui est la sienne, l'affectation et la forfanterie, il y a le stupre, il y a les mauvaises pensées, il y a tout ce que la pruderie, le bigotisme essaie de révoquer et qu'il déteste tellement parce qu'il le sent en lui. C'est Savonarole, si vous voulez. C'est Savonarole, c'est l'homme à pute devenu ensuite un prédicateur. C'est la même histoire, c'est la même affaire. Dorine, c'est pas innocent que Dorine soit la première personne à qui Tartuffe parle quand il apparaît. Parce que c'est vraiment un combat au sommet. C'est un combat au sommet entre celle qui repère l'affectation, la forfanterie et surtout la saleté. La saleté est sensuelle. Dorine est celle qui dit, comme on le dira des talibans qui mettent des cages sur les femmes, qui mettent les femmes en cage, Dorine est celle qui dit que c'est être bien tendre à la tentation que de vouloir ainsi dissimuler le corps des femmes. Le dialogue est étonnant, écoutez-la. Tartuffe lui dit, donc chacun le sait, hein, « Couvrez ce sein que je ne saurais voir et non cachez ce sein. » Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Tartuffe croit, en disant cela, se donner un gage de vertu supplémentaire. Or, pourtant, il se trahit lui-même en le faisant. Et c'est ça qui est fort, c'est que l'hypocrisie n'a besoin que d'elle-même pour apparaître comme elle est, comme de l'affectation et de la forfanterie. Dorine est impitoyable. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous monte, mais à convoiter, moi, je ne suis point si prompte. Et je vous verrai nu du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. En d'autres termes, vous qui voulez absolument cacher mon corps, vous ne le faites que parce que mon corps vous inspire un désir dont vous vous sentez coupable et dont, par conséquent, vous me faites à moi le reproche. C'est quand même...
Tartuffe met à nu sa propre faiblesse.
Dorine met à nu la propre faiblesse de Tartuffe. C'est ça qui est intéressant, c'est que Tartuffe veut habiller Dorine et Dorine, en retour, met Tartuffe à nu. C'est ça qui se passe. Elle le met à nu en dévoilant derrière le désir qu'il a de l'habiller la pulsion lascive qu'il voudrait réprouver ou dont il voudrait, parce qu'en fait, il s'accommode tout à fait de sa lascivité quand il essaiera de violer la femme d'Orgon. On verra que ça fonctionne très bien pour lui. Mais elle est celui qui repère sous la pudibonderie de Tartuffe les plus mauvaises pensées.
J'aimerais souligner ce qui pourrait n'être qu'un détail, je ne sais pas, vous allez me dire, c'est dans la proximité et le parallèle qu'on pourrait dresser entre l'entrée de Madame Pernel et celle de Tartuffe.
C'est-à-dire ?
Madame Pernel rentre en disant « Allons, flipote, que d'eux je me délivre ». Donc elle mentionne cette flipote, ce curieux personnage de flipote qu'on entend guère. Et Tartuffe rentre en scène en disant, j'ai plus exactement, mais il dit...
Laurent Cérémaère.
Voilà, Laurent Cérémaère avec ma discipline. Et Laurent et flipote sont un peu dans le même sac. Ces deux personnages qu'on entend guère et...
C'est pas qu'on les entend guère, Paola. C'est qu'ils ne parlent pas du tout. On les entend pas. Ce sont deux personnages muets. Et c'est quand même très intéressant que la talibane Pernel et le taliban Tartuffe soient l'un et l'autre flanqués d'un bras droit muet. Que ces deux êtres tellement attachés à faire taire ce qui disconvient à leur plan, tellement attachés à recouvrir la vérité de l'affectation et de la forfanterie, tellement dupes de leur propre impiété au point... Enfin, plutôt Pernel, ça. Madame Pernel, dupe de son impiété au point de la prendre pour un acte de foi. Et Tartuffe, qui, lui, ne croit pas plus en Dieu que personne, mais qui, en revanche, en fait un fonds de commerce... Que ces deux personnages, dont l'une est idiote, Madame Pernel, et l'autre est fourbe, Tartuffe, soient tous les deux flanqués d'un être muet, c'est très étonnant, c'est vrai. Alors, il y a un point intéressant avec Laurent. D'abord, il faut faire droit ici, et j'en appelle à la mémoire de ceux de nos auditeurs qui sont allés voir Tartuffe quand ils étaient petits, et qui l'avaient pas lu avant de le voir, et qui voient apparaître Tartuffe, dit et qui entendent Tartuffe dire, première parole, « Laurent Cérémaère avec ma discipline ». En ce qui me concerne, j'ai vu Tartuffe avant de le lire, et j'ai cru, avant de le lire, que Cérémaère, c'était le nom de famille de Laurent, en fait. Que Laurent s'appelait Laurent Cérémaère. Or, Laurent est par ailleurs dans la pièce, séparément de ce passage, enfin, au-delà de ce passage-là, de cette première apparition, il est, si j'ai bonne mémoire, mentionné deux ou trois fois, pas plus. Comment dire, il est mentionné que deux ou trois fois, une fois quand Dorine dit à Madame Pernel « À lui non plus qu'à son Laurent, je ne me fierais moi que sur un bon garant » et que Madame Pernel répond « J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être, mais pour homme de bien, je garantis le maître ». Et puis, il y a une autre apparition de Laurent un peu plus tard. Oui, c'est dans la scène 6 de l'acte 1, instruit par son garçon qui dans tout l'imitait, et de son indigence, et de ce qu'il était, c'est Orgon. Qui décrit Tartuffe et qui, ici, fait valoir le fait que non seulement Tartuffe a tous les signes extérieurs de la dévotion, mais qu'en plus, il est suivi par un valet qui se conduit comme ça. Au début de l'acte 3 aussi, hein, son valet dit qu'il prie et je n'ai pu le voir, mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre, sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Bref, il y a trois mentions de Laurent qui, par ailleurs, ne parle pas. Mais deux choses là-dessus. Il faut un muet au service du menteur. C'est ça que je veux dire ici. Il faut un muet au service du menteur, que le menteur se mente à lui-même, comme c'est le cas de Madame Pernelle, le Mola Omar Madame Pernelle, si vous voulez, ou que le menteur mente aux autres, comme c'est le cas de Tartuffe. Il faut un muet au service du menteur. Si on extrapolait, si on allait, puisque c'était dans cette ligne de lecture, peut-être guidé en cela par l'actualité, mais on avait une ligne de lecture plutôt politique du Tartuffe la semaine dernière, si on extrapole cela, on pourrait y voir quelque chose de l'ordre de la police secrète. Qu'est-ce que c'est que la police secrète? C'est ce truc invisible, quoique toujours présent. Vous savez, la phrase du représentant de la police secrète, c'est « on est à 5 minutes de partout ». Laurent, il est là, il est toujours là, il est toujours pas loin, il est à 5 minutes de partout. C'est l'homme lige, c'est le coursier du malhonnête, c'est un monde obscur. Vous avez même des gens pour dire qu'en fait, Laurent, c'est le diable. C'est le diable, c'est celui qui... C'est le grand silence qui déplace Tartuffe. C'est là, si vous voulez, que la pièce prend une autre dimension, je crois, une dimension presque mystique. Alors, le « Serré ma air » n'est pas le nom de Laurent, même si c'est quand même étonnant d'avoir cette impression-là. Quand on est petit et qu'on voit la pièce avant de la lire... parce que le Tartuffe, c'est bien connu, est une pièce qui transforme un nom propre en nom commun. « Vous êtes des Tartuffes !» Voilà, le dire aujourd'hui à un intégriste, vous êtes un Tartuffe, vous êtes un Tartuffe, vous êtes un être lubrique, vous êtes un impie, et c'est la raison pour laquelle vous punissez les gens qui ont du désir, vous mettez des cages sur la tête des femmes, et vous voulez tuer ceux qui s'en prennent aux dieux auxquels, par là même, vous démontrez que vous ne croyez pas vous-même. Donc, le Tartuffe est une pièce qui transforme un nom propre en nom commun. Et d'ailleurs, on oublie souvent que c'est Molière lui-même qui le fait dans cette pièce, puisqu'à un moment, Dorine, quand Marianne prétend s'incliner devant les volontés de son père en disant « mais je peux pas résister, mon père, oui, il veut que j'épouse Tartuffe, mais qu'est-ce que je peux faire, mon père a sur moi grande puissance », Dorine lui dit « bon, non, non, vous serez, ma foi, tartuffié ». Donc, Molière aide à la bascule de Tartuffe, comme si Molière avait pressenti le fait que Tartuffe allait devenir un nom commun, un lieu commun, l'autre nom, le synonyme de l'hypocrite. Comme s'il le pressentait, il en fait un adjectif. Mais on peut aussi transformer un syntagme en nom propre. Et c'est le cas avec Serré ma air. Et dans les jeux de langage qu'il y a dans le Tartuffe, moi, je trouve qu'il faut faire droit, mais je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il faut faire droit au Serré ma air. Et l'entendre aussi comme un nom commun. Parce qu'on peut l'entendre. Serré ma air, c'est serrez-moi bien cette petite chemise propice aux mortifications. Ma air, enfin voilà, c'est occupez-vous de mon cilice. Parce qu'il y a des gens qui sont là, il y a des gens qui peuvent me voir. Donc montrez-moi dans l'attitude du pénitent. D'ailleurs, ça va avec le fait que Tartuffe, juste après, dit si l'on vient pour me voir. Si l'on vient pour me voir, c'est-à-dire non pas pour faire sa connaissance, mais pour assister au spectacle qu'il donne de lui-même, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partager les deniers. En d'autres termes, voilà, c'est très important ça, hein. C'est si l'on vient pour me voir, si l'on vient pour regarder celui que je suis, voici celui que je présenterai. Et cette rencontre, Tartuffe-Dorine, avec ce fantôme de Laurent, ce Serré ma air, cette rencontre de Tartuffe et Dorine est pour ça très intéressante parce que il joue beaucoup sur la question du regard, précisément. On l'a vu. Ah mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir, comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir, par de pareils objets, les âmes sont blessées, cela fait venir de coupables pensées. Donc Tartuffe est celui qui veut qu'on lui recouvre le spectacle qui ferait venir en lui de coupables pensées. Dorine est celle qui dit « Mais écoutez, moi je vous verrai nu du haut jusqu'en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. » Donc, on a d'un côté le regard qui déshabille et de l'autre côté le regard qui prétend recouvrir. Mais au-delà de cela, il y a l'idée que Tartuffe n'existe que comme le spectacle de lui-même. Il se présente de cette façon-là. Il ne peut pas exister autrement que comme la représentation lui-même. Il est toujours en représentation. Ce que je veux dire ici, voilà, je finis là-dessus, c'est très important, c'est ça que je cherchais. Tartuffe, c'est un acteur. C'est même l'acteur. C'est-à-dire, c'est celui qui... Mais ça ne marche pas, justement. Parce que c'est un théâtre, paradoxalement, c'est un théâtre de l'antithéâtre. C'est un théâtre qui se sert de la mise en scène, d'un dispositif scénique et du mensonge, du jeu théâtral, entre guillemets, pour faire valoir une vérité qui n'est pas dupe des apparences.
Sans compter que d'un point de vue dramaturgique, il y a Damis, le personnage, le fils d'Orgon, qui assiste en tant que spectateur caché à cette scène, puisqu'il est...
À la scène d'après.
Mais
oui, il est déjà là, oui, vous avez raison, pardon, vous avez raison.
Puisque c'était l'entrevue entre Dorine et Damis juste avant, et elle l'a caché derrière une porte, il est en mesure de tout entendre et d'assister à cette scène.
Et c'est le même qui ensuite assiste à la scène où Tartuffe fait la cour à Elmire, Et il dit, j'ai tout vu, je vais le dire à mon père. Or, son père, pétri de dogmatisme, ne peut rien entendre. Tiens d'ailleurs, on va entendre la façon dont le père refuse d'écouter le fils et la façon dont Tartuffe s'y prend pour se blanchir en s'accablant.
On va entendre cette scène à laquelle vous faites référence, la scène d'Amis qui essaye de confondre Tartuffe, enfin...
Il a confondu Tartuffe.
Il a confondu Tartuffe et il essaye de raisonner son père en vain. Mais juste avant, il faut quand même préciser que la scène délicieuse de l'entrevue entre Elmire, qui voudrait convaincre Tartuffe de dire de renoncer au mariage avec Marianne puisqu'il n'y tient pas, et elle sent bien elle-même que les yeux de Tartuffe sont rivés autre part. Et Tartuffe qui lui confie, pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. Et on peut se demander si dans cette entrevue entre Elmire et Tartuffe, Tartuffe continue-t-il à jouer son rôle ou se met-il à nu pour une fois? Est-ce que, puisqu'il lui dit tout, il lui dit pour être dévot, je n'en suis pas moins homme, il lui confie être attiré par elle, il lui confie son désir.
C'est ça qui est formidable, c'est que Elmire, c'est la faiblesse de Tartuffe. Molière, de ce point de vue, d'ailleurs, exploite un filon très intéressant, puisqu'on a dans le malade imaginaire aussi le fils d'Iafoirus, hein, qui arrive pour faire son compliment. Il doit faire son compliment à sa future épouse, c'est-à-dire à la fille d'Argan. Et il se trompe, il le fait à Béline, c'est-à-dire la femme d'Argan. Et il intervertit les rôles. Et en fait, Molière joue à merveille de cela, puisque chez les aventuriers, on peut volontiers coucher avec la mère tout en épousant la fille, si vous voulez. Ça pose aucun problème. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Mais là, effectivement, c'est la faiblesse de Tartuffe, Elmire. Il a un truc pour elle. Il a du désir. Qu'est-ce que vous voulez, Tartuffe? C'est son humanité, Elmire. D'ailleurs, on dit souvent que c'est là qu'il est le plus ignoble. Puisque c'est de cette façon-là que Tartuffe, vraiment, il n'y a pas de, le type reçoit tout d'Orgon et pour seule récompense, il essaie de coucher avec sa femme. Donc on peut se dire, évidemment, ce type est ignoble. Mais c'est là qu'il est le plus humain. C'est là que Tartuffe se laisse avoir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il se fera avoir, puisque Elmire, revenant vers Tartuffe un peu plus tard pour démontrer, même modèle que dans le malade imaginaire, où il s'agit de confondre l'épouse qui est en fait vénale et intéressée et qui n'aime Argan, soi-disant, que pour récupérer son bien après sa mort, parce qu'elle croit qu'il est vraiment malade. Il y a dans le Tartuffe une scène où Elmire, pour confondre Tartuffe, fait croire à Tartuffe qu'elle est sensible aux avances qu'il lui fait, et c'est la fameuse scène, tiens, on l'entendra tout à l'heure, où Orgon lui-même est caché sous la table. Mais là où on s'aperçoit que c'est la faiblesse de Tartuffe, c'est dans cette scène, donc on n'entendra pas parce qu'elle est trop longue, mais dans cette scène entre Tartuffe et Elmire, il y a un moment où Tartuffe lui met la main sur le genou. Et elle lui dit, attendez, je cherche la réplique, ah oui, voilà. « Que fait là votre main ? Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Ah, de grâce, laissez, je suis fort chatouilleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux, dit Tartuffe. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux, jamais en toute chose on n'a vu si bien faire. Il est vrai, répond Elmire, mais parlons un peu de notre affaire, leur affaire étant que Elmire veut convaincre Tartuffe de ne pas épouser Marianne. » Et de laisser Marianne épouser Valère. Mais ce qui est intéressant, c'est le pourpoint, c'est le vêtement. Le mouchoir dont Tartuffe voulait que Dorine couvrît sa gorge, comme on dit, c'est sain, est également celui, si j'ose dire, se retrouve dans le pourpoint que Tartuffe a cette fois-ci du plaisir à palper, parce qu'il sent la chair dessous. Et ça n'est pas un hasard si, à l'instant où il sent la chair dessous, il se met à parler, non plus de la chair, mais du pourpoint lui-même. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. C'est-à-dire que plus cet homme s'approche de lui-même, plus il se défie de lui-même. Et dans cette scène qui est très importante, parce que c'est une scène où Tartuffe effectivement se dévoile un peu, c'est une des scènes où il est le moins hypocrite. C'est une scène où il avoue à Elmire qu'il a envie d'elle, tout simplement. Dans cette scène où il se dévoile, là encore, il se sert d'un vêtement pour faire passer son message. Seulement, ici, il n'est pas besoin de l'exégèse de Dorine pour montrer qu'un homme qui recouvre une femme est en fait un homme qui a le désir de cette femme et qui punit cette femme du désir qu'elle lui inspire. Dorine n'a pas besoin de dire ça. Ici, Dorine est inutile, puisque Le mensonge de Tartuffe apparaît à ciel ouvert dans la mesure où il cesse d'être hypocrite. Donc son mensonge n'a plus besoin d'un décrypteur pour nous sauter aux yeux. Et c'est ce qui se passe dans cette scène. Laquelle donc se termine par l'arrivée de Damis, qui veut absolument donc apprendre à son père ce qu'il vient de voir. Et voyez comment le père réagit.
Nous allons régaler mon père, votre abord, d'un incident tout frais qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et monsieur, d'un beau prix, reconnaît vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moi qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris, là, qui faisait à madame l'injurieuse aveu d'une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, et son cœur trop discret voulait à toute force en garder le secret. Mais je ne puis flatter une telle impudence, et crois que vous la taire et vous faire une offense.
Oui, je tiens que jamais de tous ces vains propos ne doit d'un mari traverser le repos. Que ce n'est point de là que l'honneur peut dépendre, et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, Damis, si j'avais eu sur vous quelque crédit.
Ce que je viens d'entendre, oh ciel, est-il croyable?
Oui, mon frère. Je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de soudures. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. De quelque grand forfait qu'on me puisse reprendre, je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage.
Oh, traître! Oses-tu bien par cette fausseté vouloir de sa vertu ternir la pureté?
Quoi? La feinte douceur de cette âme hypocrite vous fera démentir?
Tais-toi, peste maudite!
Oh, laissez-le parler. Vous l'accusez à tort. Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi, sur un tel fait, m'être si favorable? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur? Et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non! Vous vous laissez tromper à l'apparence. Et je ne suis rien, moi, hélas, que ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien. Mais la vérité pure est que je ne vaux rien. Oui, mon cher fils, parlez. Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés. Je n'y contredis point. Je les ai mérités. Et j'en veux à genoux souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie.
Mon frère, c'en est trop. Ton cœur ne se rend point, traître.
Quoi? Ces discours vous séduiront au point...
Tais-toi, Pandare. Mon frère, élevez-vous de grâce. Infâme.
Il peut...
Tais-toi.
J'enrage. Quoi? Je passe...
Si tu dis un seul mot, je te romperai les bras.
Mon frère, au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il eût reçu pour moi la moindre égratignure.
Ingrat.
Laissez-le en paix. S'il faut à deux genoux vous demander sa grâce...
Hélas, vous moquez-vous. Quoiqu'un voit sa bonté.
Donc,
paix.
Quoi, je...
Paix, dis-je. Je sais bien quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous, et je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. On met impudemment toutes choses en usage pour ôter de chez moi ce dévot personnage. Mais plus on fait l'effort afin de l'en bannir, plus j'en veux employer à les mieux retenir. Et je vais me hâter de lui donner ma fille pour confondre l'orgueil de toute ma famille.
Écoutez Le Gai Savoir, une émission de Raphaël Antoven et Paola Reymann, et nous vous parlons du Tartuffe, une des pièces les plus classiques du répertoire moliéresque et partant l'une des plus étudiées au lycée. quelle prouesse d'acteur de Tartuffe qui joue à fond la vérité, l'hyperbole, pour convaincre Orgon que tout ce que vient de dire Damis est faux.
C'est génial, hein. Il n'est jamais mieux caché qu'en pleine lumière, cet homme-là. Le vrai mensonge est dans l'aveu d'une vérité. C'est-à-dire que la façon qu'il a de se couvrir, c'est de devancer la vérité. Et par là même, de noyer les faits qu'on lui reproche dans une dimension plus générale de la nature humaine. Ce que j'ai fait est honteux. Peut-être, bien sûr. Mais ne nous attardons pas sur ce que j'ai fait. Attardons-nous sur le fait que être humain, c'est être honteux. Et il enrobe, au fond, son forfait d'une conception si misérable de la nature humaine que son forfait se voit soluble dans cette conception misérable de la nature humaine. C'est là qu'on est dans l'hyperbole. Tartuffe est celui qui se cache en pleine lumière. Il a une modalité de la dénégation qui est formidable. Vous savez, c'est comme quand vous faites une discussion. Vous avez une discussion avec des arguments, avec quelqu'un qui est de mauvaise foi. Ça peut arriver. Si cette personne est de mauvaise foi, vous avancez des arguments et au lieu de répondre aux arguments que vous avancez, elle vous fait le procès d'intention des arguments que vous formez. En d'autres termes, au lieu de vous répondre, elle vous dit « Oui, mais ça, ce sont les arguments de tas de gens, etc. etc. » et on vous inscrit dans un discours plus général, ce qui vous dispense d'y répondre. C'est une des modalités de la mauvaise foi, c'est une des formes de la dénégation. Du genre, pour ne pas vous répondre, je vous réponds sur vous-même, et non pas sur ce que vous dites. Or, que fait Tartuffe ici? Pour ne pas être confondu, il noie son forfait dans une conception si générale de l'humanité que Orgon, qui ne demande que cela en fait, parce que Orgon ne demande qu'à être détrompé. C'est ça qui est intéressant. Dans la pièce, dans la scène en question, il y a un moment, Orgon parle d'un dévot personnage. Or c'est exactement ça Tartuffe, hein. C'est un dévot personnage. Donc voilà une scène où Tartuffe se décrit tel qu'il est, c'est-à-dire un malheureux pêcheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été, chaque instant de ma vie est chargé de souillures, elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Donc effectivement, ça c'est Tartuffe. Et c'est Tartuffe qui le dit de lui-même. Orgon n'a besoin que de très peu de choses pour adhérer à l'opinion qu'au fond de lui il sait fausse. C'est ça qui est fort. Qu'au fond de lui il sait fausse, mais à laquelle il veut tellement adhérer que Tartuffe n'a pour ce faire qu'à élever un tout petit peu le niveau des griefs. Vous me reprochez d'avoir voulu coucher avec votre femme, mais je suis un misérable. Après un tel aveu, comment lui en vouloir? Et c'est ça qui est fort. Un peu plus bas, Orgon dit à son fils de se taire. Tais-toi. Et un peu plus bas, il lui dit paix. Or, paix, c'est également ce que Monsieur Jourdain, le bourgeois gentilhomme, autre fou génial de Molière, c'est ce que Monsieur Jourdain dit à sa femme. Vous vous souvenez de cette scène? C'est quand Dorante va voir Monsieur Jourdain. Et sa femme lui dit, vous allez voir, Dorante, il vient pour le dire vite, hein, vous taper de l'argent. Et Jourdain lui dit, mais pas du tout, il a parlé de moi dans la chambre du roi, il vient pas du tout me taper de l'argent, il vient me rendre ce qu'il me doit. Et Dorante arrive et lui dit, monsieur, je vous dois tant. Alors il fait le compte de tout ce qu'il doit, à peu près 15 000 deniers ou je sais pas quoi. Bon. Et Jourdain dit, oui, voilà, effectivement, c'est ce que je vous dois. Et au moment de lui rendre l'argent, alors que toute la conversation tend vers cela, Dorante dit, plus 200 pistoles que je vous emprunte maintenant, ce qui fera un compte rond. Et là, la femme de monsieur Jourdain triomphe. Et Monsieur Jourdain se tourne vers sa femme et lui dit « paix ». P-A-I-X. Et c'est ça qui est fort, je crois, c'est qu'il demande la paix. Il réclame la paix. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas tranquille, Jourdain. Quelque chose en lui le renseigne sur le fait que le mérite ne s'achète pas, qu'il suffit pas d'avoir du blé quand on est un bourgeois pour devenir un gentilhomme. Ça se passe pas comme ça. Il y a des trucs qu'on peut pas acheter dans la vie. Il y a des choses qui n'ont pas de prix. Et Jourdain, il est comme tout le monde, il sait ça. Et Orgon est comme tout le monde aussi, il le sait d'une certaine manière. Et la façon qu'ils ont de faire taire leurs interlocuteurs, c'est une façon qu'ils ont de ne pas entendre ce qu'ils savent déjà. Et on est là encore au cœur du processus idéologique qu'on avait décrit la dernière fois, dont, pour mémoire, il faut rappeler qu'il repose non pas sur l'ignorance. C'est pour ça que c'est une illusion de croire qu'on guérit de l'idéologie par la culture. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tellement d'idéologues qui sont hyper cultivés et hyper intelligents. On ne guérit pas de l'idéologie par la culture. Parce que on étaye l'idéologie par la culture en donnant à l'idéologue les moyens de prélever dans un bagage culturel les éléments du réel qui conviennent à sa folie. Donc c'est pas par la culture qu'on guérit l'idéologie. C'est pas comme ça. C'est par une parole qui n'est pas audible. C'est par une parole qui n'est pas audible, qui ne peut pas être entendue par celui qui le sait déjà. Et c'est très intéressant que Orgon fasse taire son fils, de la même façon que Tartuffe, quand il voit Dorine, mettez dans vos propos un peu de modestie, sinon je vais sur le champ vous quitter la partie. De la même façon que quand le frère, j'allais dire Bérald, mais c'est le frère d'Argan, que quand Cléante parle à Orgon, au bout d'un moment, Orgon lui dit, écoutez, je vous laisse, j'ai quelques affaires pressantes qui m'attendent, je ne peux pas rester. Ça n'est pas audible. Madame Pernelle ne peut pas entendre ce qu'Orgon lui dit. Cette surdité renseigne sur l'hyperacousie de l'idéologue. C'est ça qui est fou. L'idéologue est un personnage tragique. Orgon est un personnage tragique. Monsieur Jourdain est un personnage tragique. Les snobs sont des personnages tragiques. Parce que, qu'est-ce que c'est que le snobisme? Le snobisme, c'est un préjugé. Disons, c'est un sentiment de savoir qui a la folie de s'appuyer sur un préjugé. Mais, d'une certaine manière, la sagesse de se moquer de lui-même, ou en tout cas d'être risible. Et c'est exactement ce qui se passe avec Orgon. Orgon n'est risible que par la mauvaise foi qui est la sienne. C'est ça qui est fou, c'est que plus on est bigot, plus on est de mauvaise foi. Il faut bien entendre cette expression ici. Et le rapport entre le dévoilement, la pleine lumière, le fait de se montrer, de se manifester en pleine lumière, pour être encore mieux caché aux yeux de celui qui veut être dupe, ce rapport entre le dévoilement et la dissimulation atteint chez Tartuffe, je dois dire, des sommets de virtuosité. On n'est jamais allé si loin dans l'art de se cacher aux yeux du monde entier et d'être parfaitement planqué à cet endroit-là, à ce moment-là.
Alors, je sais que ça nous fait retourner un petit peu en arrière parce que c'est avant l'apparition de Tartuffe, mais il serait intéressant quand même d'écouter le portrait que Tartuffe, et donc le portrait de lui-même que fait Orgon, mais le portrait qu'il donne à Cléante de Tartuffe et de son amour pour Tartuffe, est passionnant et très intéressant parce qu'il renseigne sur la crédulité folle d'Orgon qui, en croyant convaincre Cléante, ne fait que le conforter dans l'idée que son beau-frère est fou. Et...
Ah, alors, vous avez tout à fait raison, c'est la scène 6 de l'acte 1.
Exactement.
Et en fait, en vous écoutant, je me dis que, bon, Tartuffe est loin d'apparaître, hein, puisqu'on est dans la scène 6 de l'acte 1, il y a encore un acte entier avant que Tartuffe ne fasse son apparition, Laurence et Rémaer, etc. Et donc on est loin de l'apparition de Tartuffe à ce moment-là, mais son spectre règne, on ne parle que de lui. Et moi ça me fait penser à ce que Nietzsche peut dire de l'ombre de Dieu. Dieu est mort, mais il nous faudra encore tuer son ombre. L'ombre de Dieu, on l'a vu, on en a abondamment parlé ici, maintes fois, mais on le dira jamais assez, l'ombre de Dieu, c'est toutes les formes prises par le désir de croire. C'est-à-dire, c'est la métamorphose. Alors, c'est plus la grande vérité tutélaire d'un dieu barbu et susceptible dont il faudrait exécuter les volontés en exécutant les gens qui le caricaturent, si vous voulez. Donc, on est moins con que ça. Mais l'ombre de Dieu aux yeux de Nietzsche, ce nihilisme-là, apparaît sous la forme de la science, qui rassemble le disparate du réel sous l'égide d'un concept unique, sous la forme de la centralité de l'homme, c'est-à-dire de l'exception humaine, du sentiment de l'exception humaine. Bref, il y a des tas de modalités pour Dieu de survivre à sa propre mort, des tas de façons pour Dieu de survivre à sa propre mort. Et en fait, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'ombre de Tartuffe. L'ombre de Tartuffe, c'est-à-dire... ce qu'il y a de Tartuffe, quand Tartuffe lui-même n'est pas là, et que pourtant il est omniprésent. C'est une des meilleures images, je crois, de ce que Nietzsche pourrait dire de l'ombre de Dieu. Et ça va de pair, d'ailleurs, avec la façon dont Orgon échoue à décrire Tartuffe, à la façon dont un langage dit apophatique échoue à dire quelles sont les qualités de Dieu. On va entendre la scène, vous allez voir, c'est intéressant. Scène 6, acte 1.
À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et, sans avoir dessein de vous mettre en courroux, je vous dirai tout franc que c'est avec justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se peut-il qu'un homme ait un charme aujourd'hui à vous faire oublier toute chose pour lui, qu'après avoir chez vous réparé sa misère, vous en veniez au point...
Halte-là, mon beau-frère. Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez.
Je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais enfin, pour savoir... quel homme ce peut être?
Mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Oh! Un homme! Un homme, enfin. Qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde et comme du fumier regarde tout le monde. Oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toutes amitiés, il détache mon âme. Et je verrai mourir frère, enfant, mère et femme que je m'en soucierais autant que de cela.
Les sentiments humains, mon frère, que voilà.
Oh, si vous aviez vu comme j'en fis rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour, à l'église, il venait d'un air doux, tout vis-à-vis de moi se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière par l'ardeur dont au ciel il poussait sa prière. Il faisait des soupirs, de grands élancements, et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon qui, dans tout, l'imitait, et de son indigence, et de ce qu'il était, je lui faisais des dons. Mais avec modestie, il me voulait toujours en rendre une partie. C'est trop, me disait-il. C'est trop de la moitié. Je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, aux pauvres, à mes yeux, il allait le répandre. Enfin, le ciel chez moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout. Et qu'à ma femme même, il prend pour mon honneur un intérêt extrême. Il m'avertit des gens qui lui font les yeux doux, et plus que moi six fois, il s'en montre jaloux. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle, un rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là, qu'il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière, et de l'avoir tué avec trop de colère.
Il est étonnant de remarquer que, en croyant échouer à décrire Tartuffe, puisqu'il est là, c'est Orgon, hein, je parle d'Orgon, ah, c'est un homme enfin, il fait justement que le décrire beaucoup mieux qu'il le croit.
Mais c'est sublime, ça, c'est sublime, c'est peut-être le plus beau vers de Tartuffe, et c'est le vers le plus décousu. C'est un homme, point de suspension, qui, point de suspension, ah, point de suspension, un homme, point de suspension, un homme enfin. C'est un homme qui, ah, un homme enfin. Il ne peut rien dire. Il ne peut rien en dire. Encore une fois, je reviens là-dessus. Clément Rosset, d'ailleurs, lui-même, dans ses 5 petites pièces morales, se moque d'Emmanuel Kant à propos de ce que Kant appelle la volonté bonne, dont Rosset dit, ça c'est drôle d'ailleurs, que Kant ne peut rien dire d'autre sinon qu'elle est bonne. Donc qu'est-ce qu'une volonté bonne? Bah, c'est une bonne volonté. Et une bonne volonté, c'est quoi? Bah, c'est une volonté bonne, dit Rosset, qui s'éclate avec ce sens kantien de la tautologie. Mais laissons ça, parce que ce qui est important ici, c'est qu'en fait, Rosset critique Kant parce que Rosset est un mystique. Et Rosset est particulièrement attentif au fait que les mots échouent à décrire le réel. Dès qu'on s'approche de la réalité, c'est comme l'air qui se raréfie, si vous voulez, les mots nous manquent. De la même façon que, c'est un cliché de le dire, hein, quand on aime quelqu'un, on trouve plus ses mots. On perd ses mots, allez rattraper votre éloquence en fuite, dit Roxane à Christian, parce que je vous aime, je vous aime, je vous aime, ok, bon, c'est bien, et après, dites-moi, vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites-moi comment vous m'aimez. Il peut pas, non pas seulement parce que c'est Christian et qu'il est un peu, voilà, que c'est un légionnaire, enfin c'est un soldat et qu'il a pas la culture poétique de Cyrano. Non, il peut pas parce qu'il est amoureux. Il peut pas parce que il est amoureux et que les parages du réel là sont si prégnants que les mots font défaut. On est dans une logique littéralement apophatique, c'est-à-dire que c'est le moment où le langage échoue à décrire ce qu'il veut dire. Alors chez Maître Eckhart, le langage échoue à décrire Dieu. Chez Clément Rosset, le langage échoue à décrire le camembert qu'on a sous les yeux. Mais c'est la même affaire. Dans les deux cas, les mots s'estompent quand on s'approche du réel. Et alors, à cette impuissance native du langage, qui avère le fait que les mots sont des généralités, qui doivent pourtant saisir, et il faut bien des contorsions pour qu'ils parviennent à saisir la singularité du monde, à cette dimension du langage, à cette infirmité du langage, que Nietzsche, Rousseau, Rosset ont abondamment pointé dans des textes eux-mêmes fort bien écrits, à cette impuissance native du langage, s'ajoute le fait que la seule chose que Orgon réussit à dire de Tartuffe, c'est un homme, enfin. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que cet individu, auquel on reproche d'être hypocrite, d'être l'acteur de son propre rôle, d'être un dévot personnage, d'être surtout plus que dévot, d'être un personnage. C'est-à-dire cet homme auquel on reproche de vivre sous un masque. Et cet homme dont le masque est si subtil que de temps en temps il prend la forme de celui qui tombe tous les masques. « Oui, mon frère, je suis un misérable et je mérite bien les reproches que votre fils m'adresse. » Cet homme-là, c'est l'humanité elle-même. C'est pas un homme, c'est l'homme. C'est l'homme, enfin. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'humanité ? L'humanité, c'est ce talent que nous avons de nous mentir à nous-mêmes en nous dissimulant derrière l'image flatteuse que d'autres nous renvoient de nous-mêmes, en dissimulant nos propres turpitudes derrière l'image flatteuse que les autres nous renvoient de nous-mêmes, sans pour autant que celui qui dissimule ses turpitudes soit dupe sur ses propres turpitudes. Qu'est-ce que c'est que l'humanité ? L'humanité, c'est cette instance qui sait tout, qui sait qu'elle est née de façon contingente et qu'elle va mourir un jour, et qui, sachant cela, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir de la vie, et qui passe l'existence à recouvrir ce savoir natif de considérations plus ou moins érudites, oiseuses, ou d'actes de foi plus ou moins sincères. Mais c'est un homme... Un homme, enfin, c'est tout ce qu'il peut en dire, et disant cela, il en dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'abord, il dit qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas décrire avec des mots la réalité dont on s'approche, et surtout, qu'on peut s'en sortir par l'abstraction de l'idée d'humanité, et enfin, que Tartuffe, c'est lui-même l'humanité tout entière, c'est-à-dire que Tartuffe est exemplaire, et c'est là que la pièce est vraiment indigeste. Je veux dire, le genre de folie dont tous les humains sont porteurs à l'instant où ils sont de mauvaise foi ou à l'instant où ils décident de croire parce qu'ils ne croient pas ou parce qu'ils ont un doute, le genre de folie est beaucoup plus pathologique au fond que celui qui donne à cette folie les détours de l'intégrisme. Au fond, l'intégriste est plus lisible que le type ordinaire qui lui-même se complaît dans l'image flatteuse de lui-même et les petits mensonges du quotidien, à la façon dont, chez Clément Rosset, l'ivrogne est plus lucide que l'homme sobre, parce que l'ivrogne sait qu'il est ivre alors que l'homme sobre croit qu'il est lucide. Donc il y a dans cette incapacité de dire une parole qui sort, qui à la fois dit l'impuissance du langage et en même temps rend à Tartuffe, d'une certaine manière, ses lettres de noblesse. Tartuffe, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme tout entier.
Il le dira lui-même, hein. On l'a entendu quand il dit plus tard à Elmire, « Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. »
Exactement. Vous l'avez dit. « Pour être dévot, je n'en suis pas moins homme. » C'est exactement ça qui compte. Ce qui compte, que dit-il à son spectateur ici ? Il dit, non pas qu'il n'est pas dévot, bien sûr, mais que pour être dévot, il n'en est pas moins homme. En d'autres termes, le problème n'est pas sa dévotion ou son dévotisme, si j'ose dire, ou son bigotisme, ou son voilà. Ça n'est pas ça. Son problème, c'est pas de déguiser son âme de boue en grenouille de bénitier. Non, le problème est plus large que ça. Le problème, c'est que Tartuffe, c'est la nature humaine. C'est la nature humaine elle-même, et c'est Orgon, le plus fou des hommes, qui sait voir ça. De Tartuffe. Et de ce point de vue, évidemment, Cléante a raison. Bien sûr, Orgon est dupe des manœuvres de Tartuffe. Au pauvre, à mes yeux, il allait répandre ce que Orgon venait de lui donner. Lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Tout ça, ce sont des simagrées. Et c'est limpide. Quant à sa femme, et plus que moi, 6 fois, il s'en montre jaloux. Donc Orgon est super dupe. Et c'est cet homme super dupe qui pourtant dit de Tartuffe peut-être la seule intelligente chose. Avec Dorine, peut-être. Et quelle est cette intelligente chose ? C'est que Tartuffe, c'est l'humanité.
Quel homme ? Au moins, répondez-moi. Je ne vous parle pas de nous ajouter foi, mais supposons ici que d'un lieu qu'on peut prendre, on vous fit clairement tout voir et tout entendre. Que diriez-vous alors de votre homme de bien ?
En ce cas, je dirais que je ne dirai rien.
On est dans l'acte 4, scène 6, Raphaël.
Elmire face à Orgon. Elmire dit à Orgon, mais... Je vais vous le faire voir en pleine lumière. Et Orgon dit, c'est pas possible, comptez-en l'air. Ah, quel homme, au moins répondez-moi. Et ce qui est génial ici, c'est Elmire se propose de lui faire tout voir. C'est-à-dire tout, il faut comprendre ce tout. Tout voir, parce qu'il y a deux façons de tout montrer. Il y aurait, façon numéro 1, Tartuffe qui se couvre de cendres. Il dit, je suis un misérable, et il montre tout d'une certaine manière quand il dit ça. Mais c'est une façon pour lui de se cacher au carré. Alors que là, Tout voir, c'est montrer l'imposture derrière la simagrée elle-même. C'est-à-dire montrer l'imposture derrière la vérité. Et les paroles que Tartuffe tient sur lui-même, dont on a vu qu'elles étaient vraies et qu'il se cache derrière, et qu'elles étaient vraies et qu'elles le recouvraient avantageusement, du coup, ces paroles-là, l'imposture même de ces paroles-là, s'apprête à être démontée par Elmire qui veut lui dire, voilà, vous allez tout voir. Ce que vous allez voir, c'est tout, c'est-à-dire y compris non seulement les gestes de Tartuffe, mais également ce que ces gestes signifient. Et là, Orgon a cette phrase extraordinaire, je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Il ne peut rien dire. De la même façon que Madame Pernell perdra ses mots quand Orgon finira par lui dire, regardez, il nous a pris la maison, on va dormir dehors, là, maintenant. S'il n'y a pas un bon roi qui vient nous sauver la mise. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la pièce se termine sur un acte de flatterie de Molière extraordinaire à l'endroit du souverain. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on n'a pas le temps d'en parler. C'est la même histoire. Je ne dirai rien. Si je vois tout, je ne dis rien. Je ne peux rien dire.
On peut émettre l'hypothèse aussi, Raphaël, pour tourner un petit peu autour de ce « je ne dirai rien », parce que ça ne va pas être le cas, évidemment, il va sortir quand il va assister, et puis...
Il sortira, on va entendre la scène tout à l'heure, hein, chers auditeurs, vous y aurez droit, on va entendre la scène où Orgon sort de sous la table, oui.
En tout cas, ce « je ne dirai rien », on pourrait l'envisager comme le spectacle... La vérité de ce qu'il verra se suffira à elle-même, il n'y aura rien à ajouter.
Oui, c'est ça. Vous avez raison. Je ne dirai rien. Devant quoi on ne dit rien ? Devant la vérité. On ne dit rien. Ça veut dire on se contente de la lire, en fait. On ne l'interprète pas. Or, Tartuffe, on l'a vu, me semble-t-il, est une pièce sur l'intégrisme. Plus que l'intégrisme, qui n'est qu'un cas particulier de l'idéologie, un cas sanglant, mais un cas particulier de l'idéologie, en amont du discours sur l'intégrisme qu'on peut tenir à partir de Tartuffe, si vous voulez, de la même façon que Tartuffe, c'est pas juste une pièce sur le bigotisme spécieux d'un homme qui est en fait un aventurier, ça n'est pas seulement une dénonciation de l'intégrisme ou de ses faux curés. Bon, ça va plus loin que ça, c'est une dénonciation de l'idéologie, c'est-à-dire... de la surdité qui saisit celui qui, sachant tout, ne veut surtout pas savoir ce qu'il sait. Et c'est ça, l'idéologie. Il me semble qu'on peut aller encore un tout petit peu plus loin dans cette lecture, en revenant, par exemple, au tout début de la pièce, quand Dorine fait le portrait de Tartuffe, elle dit ceci.
« Son cagotis mentir à toute heure des sommes et prend droit de gloser sur tous tant que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fat qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire le son. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le traître, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur des saints, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté les parures du diable. »
Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tartuffe, qu'est-ce qu'on lui reproche à Tartuffe ? On lui reproche...
De commenter ?
Non, justement pas. De prendre les textes à la lettre. De prendre les textes à la lettre, c'est-à-dire de s'inspirer des textes. C'est un orthodoxe, Tartuffe. C'est celui qui considère que l'opinion droite, l'orthodoxie, littéralement, l'opinion droite, se trouve... Enfin, qui considère, qui vend le fait qu'il ne doute pas que dans les textes sacrés se trouve la vérité. Non pas les vérités, mais la vérité. Non pas des paraboles, mais des informations. Ce que je veux dire ici, c'est que l'intégrisme de Tartuffe, le bigotisme de Tartuffe, la mauvaise foi de Tartuffe s'accommode volontiers d'une lecture littérale du texte. C'est fou à quel point la vérité, le culte de la vérité, est l'ami de la mauvaise foi. Qu'est-ce que c'est le culte de la vérité ? C'est lire le texte à la ligne. C'est lire le texte à la ligne, c'est-à-dire c'est ne pas pratiquer cette lecture herméneutique du texte qui est essentielle pour le coup. Si les imbéciles sanglants qui ont tiré sur la rédaction de Charlie Hebdo ont eu le sentiment de le faire au nom des textes sacrés, en s'inspirant, en prenant à la lettre, je ne sais pas quelle sourate qui viendrait idéalement correspondre à la haine qui les meut, c'est que, à aucun moment, ils n'ont, eux, d'autres, reçu cet enseignement qui, pour le coup, est élémentaire, qui consiste à dire qu'un texte, c'est d'abord une métaphore. Un texte, c'est une parabole. Un texte, ça s'interroge. Un texte, ça se questionne. Et quand on le lit à la lettre, quand on est dans une lecture littérale, on est dans le mensonge parce qu'on est dans la vérité. Et surtout, on est dans la violence. Et la violence de Tartuffe qui vient arracher les rubans, le rouge, les mouches, rompre de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans Fleur des Saints, cette violence qui va avec le refus d'interpréter les textes, renseigne, alors là pour le coup, au-delà, enfin, renseigne pour le coup vraiment sur un dispositif fondamental de l'intégrisme qui est le refus de l'interprétation. On refuse d'interpréter les textes, on les lit à la lettre. C'est la différence entre l'extrémisme et la possibilité même d'un dialogue entre les individus. C'est la différence entre l'extrémisme et la religion. Au fond, l'impiété se mesure au degré de vérité absolue que l'on situe dans les textes. Plus on tient les textes pour détenteurs de la vérité, plus on montre par là même qu'on ne croit pas en Dieu, qu'on a remplacé cette croyance par un savoir, et on l'a fait opportunément parce que de croyance en réalité, il n'est pas. Tartuffe, c'est un littéraliste, c'est un type qui ne veut surtout pas commenter les textes. C'est aussi la raison pour laquelle sa contamination de la famille prend la forme d'individus qui, devant des arguments, finissent toujours par se taire. Orgon quitte la partie, Tartuffe quitte la partie, Madame Pernel quitte la partie. C'est-à-dire, tous ceux à qui on donne tort s'en vont. Il y a toujours un moment où ils se taisent. Il y a toujours un moment où ils se taisent parce que le régime de l'argumentation est un régime dans lequel leur prospérité est compromise. Le mensonge que Pernel et Orgon se font à eux-mêmes ne tient plus, et l'imposture de Tartuffe ne résiste pas à une lecture ouverte, tolérante, accueillante des textes sacrés qui ne s'attachent pas à voir de la vertu là où il n'y a que du bigotisme.
Et pour clore sur ce chapitre et illustrer ce que vous venez de dire, voyons ce qu'il se passe quand un dévot personnage se croit seul avec une femme.
Exactement, et voyons également la façon dont le mari de cette femme, qui mérite, s'il y en a un, vous savez, il y a cette phrase de Guitry qui dit « c'est un cocu et c'est pour ça que je le trompe ». S'il y en a un qui mérite bien qu'on le traite de cette façon-là, c'est Orgon, puisqu'il n'apparaît qu'à l'instant où c'est lui-même qui est mis en cause. On va finir là-dessus.
On m'a dit qu'en ce lieu, vous me vouliez parler.
Oui, l'on a des secrets à vous y révéler. Mais tirez cette porte avant qu'on vous les dise et regardez partout, de crainte de surprise. Une affaire pareille à celle de tantôt n'est pas assurément ici ce qu'il nous faut. Jamais il ne s'est vu de surprise de même. Damis m'a fait pour vous une frayeur extrême, et vous avez bien vu que j'ai fait mes efforts pour rompre son dessein et calmer ses transports. Mon trouble, il est bien vrai, m'a si fort possédé que de le démentir, je n'ai point eu l'idée. Mais par là, grâce au ciel, tout a bien mieux été, et les choses en sont dans plus de sûreté. L'estime où l'on vous tient a dissipé l'orage, et mon mari de vous ne peut prendre d'ombrage. Pour mieux braver l'éclat des mauvais jugements, il veut que nous soyons ensemble à tout moment. Et c'est par où je puis, sans peur d'être blâmée, me trouver ici seule avec vous enfermée. Et ce qui m'autorise à vous ouvrir un cœur un peu trop prompt peut-être, à souffrir votre ardeur.
Ce langage à comprendre est assez difficile, madame. Et vous parliez tantôt d'un autre style.
Ah, si d'un tel refus vous êtes encouru que le cœur d'une femme est mal connu de vous, et que vous savez peu ce qu'il veut faire entendre lorsque, si faiblement, on le voit se défendre. Toujours notre pudeur combat dans ces moments ce qu'on peut nous donner de tendres sentiments. Quelques raisons qu'on trouve à l'amour qui nous dompte, on trouve à l'avouer toujours. Un peu de honte. On s'en défend d'abord, mais de l'air qu'on s'y prend, on fait connaître assez que notre cœur se rend. Qu'à nos voeux par honneur, notre bouche se pose et que de tels refus promettent toutes choses. C'est vous faire sans doute un assez libre aveu et sur notre pudeur me ménager bien peu. Mais puisque la parole enfin en est lâchée, à retenir Damis, me serais-je attachée? Aurais-je, je vous prie, avec tant de douceur, écouté tout au long l'offre de votre cœur? Aurais-je pris la chose ainsi qu'on m'a vu faire, si l'offre de ce cœur n'eût eu de quoi me plaire? Et lorsque j'ai voulu moi-même vous forcer à refuser l'hymen qu'on venait d'annoncer, qu'est-ce que cette instance a dû vous faire entendre, que l'intérêt qu'en vous on s'avise de prendre? Et l'ennui qu'on aurait que ce nœud qu'on résout vint partager du moins un cœur que l'on veut tout.
C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suavité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'expliquer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi, je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planter dans mon âme une constante foi des charmantes bontés que vous avez pour moi.
Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse et d'un cœur tout d'abord épuiser la tendresse ? On se tue à vous faire un aveu des plus doux. Cependant, ce n'est pas encore assez pour vous. Et l'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire qu'aux dernières faveurs on ne pousse l'affaire.
Moins on mérite un bien, moins on l'ose espérer. Nos vœux, sur des discours, on peine à s'assurer. On soupçonne aisément un sort tout plein de gloire et l'on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi, qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma flamme.
Mon Dieu, que votre amour en vrai tyran agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit. Que sur les cœurs il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi ? De votre poursuite on ne peut se parer, et vous ne donnez pas le temps de respirer. Si est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir sans quartier les choses qu'on demande ? Et d'abuser ainsi, par vos efforts pressants, du faible que pour vous, vous voyez qu'ont les gens.
Mais si d'un œil bénin, vous voyez mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage ?
Mais comment consentir à ce que vous voulez, sans offenser le ciel, dont toujours vous parlez ?
Si ce n'est que le ciel, qu'à mes vœux on oppose, lever un tel obstacle est à moi peu de chose. Et cela ne doit pas retenir votre cœur.
Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur.
Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrai certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements.
Les Tartuffes. Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain. Où sans trouble, il dormit jusque au lendemain. Le pauvre homme, à la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Ratatatatartuffe.
Merci Raphaël, merci à tous, François Connac, et merci à vous, chers auditeurs.
Il reprit courage comme il faut et contre tous les mots fortifiant son âme pour réparer le sang qu'avait perdu madame. Fut à son déjeuner, quatre grands coups de vin.
On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler du chef d'œuvre qui est malheureusement
le pauvre homme, le pauvre homme, le pauvre homme.
Dans l'intervalle, écoutez les nouveaux chemins de la connaissance. Nous découvrirons avec vous ce qui est réservé à N'oubliez pas non plus de consulter le site de Raphaël Antovon sur France Culture, qui rassemble depuis la rentrée des émissions des nouveaux chemins de l'émergence, des ventes de silence, du désarroi et des conférences à l'Odéon. En parlant de l'Odéon, vous y avez rendez-vous samedi 30 mai. Raphaël parlera de Marx avec son invité. 17h sur France Culture, l'Atelier du Pouvoir, Thomas Vider, Vincent Martini.